on n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Bonjour et bienvenue dans cette 11e émission, l'émission du mois d'août. Et c'est la dernière émission également de la saison 1. La saison 2 va attaquer après la rentrée scolaire 2023, en septembre. Et là, nous sommes donc dans la dernière émission de cette saison 1 de l'émission. On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif. Cette émission qui était encore toute nouvelle l'année dernière et qui aujourd'hui fête ses un an. Enfin, en tout cas... va fêter ses un an dans un mois, puisque nous allons attaquer la saison 2 le mois prochain. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble l'actualité scientifique, et pour rappel, le thème de la saison 1, eh bien, il s'agit de l'espace. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé pendant ces vacances, enfin, vacances scolaires, en tout cas, ce qui s'est passé pendant cet été, au niveau de l'actualité du spatial. Aujourd'hui, nous allons parler en premier de la sonde Voyager 2 et de son récent retour en contact avec la Terre. Voyager 2, c'est une sonde spatiale qui a été lancée en 1977. Elle est la deuxième sonde à avoir atteint Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En 2018, Voyager 2 est devenue la première sonde à quitter le système solaire. Très récemment, en juillet 2023, donc là, le mois dernier, Voyager 2 a perdu le contact avec la Terre. Les ingénieurs de la NASA ont été inquiets, mais ils ont finalement réussi à restaurer le contact très récemment, quelques jours après même, c'était fin juillet. Ils ont perdu le contact parce qu'ils ont envoyé une mauvaise commande. En gros, ils ont indiqué qu'il fallait que la sonde se tourne légèrement et pour envoyer un message vers la Terre, sauf qu'elle s'est un petit peu trop tournée et donc elle n'envoyait plus de messages en direction de la Terre. Alors comment ils ont fait pour rétablir le contact ? Eh bien, ils ont envoyé ce qui s'appelle une sorte de cri interstellaire, en gros une onde que les scientifiques ont envoyé un petit peu dans tous les sens et qui a été reçue donc par la sonde à 19,9 milliards de kilomètres de la Terre. En tout cas, elle a reçu le message, c'était qu'il fallait qu'elle se détourne en direction de la Terre, qu'elle puisse se tourner à nouveau en direction de la Terre et qu'elle puisse à nouveau nous envoyer des messages. Une étude récente suggère que l'univers pourrait être deux fois plus vieux que prévu. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont estimé que l'univers avait environ 13,8 milliards d'années. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature suggère que l'univers pourrait être en fait deux fois plus vieux, soit environ 27,6 milliards d'années. L'étude a été menée par une équipe de scientifiques de l'Université d'Ottawa au Canada. Ils ont utilisé une nouvelle technique pour mesurer la distance à des galaxies très lointaines. Ils ont découvert que ces galaxies sont beaucoup plus éloignées que ce que les modèles cosmologiques auraient prédit si l'univers avait 13,8 milliards d'années. Cette découverte remet en question notre compréhension de l'univers. Elle signifie que l'univers est beaucoup plus grand et plus ancien qu'on ne le pensait auparavant. Elle signifie également que la loi de Hubble, qui décrit l'expansion de l'univers, devra peut-être être modifiée. Cette étude est une découverte majeure qui a le potentiel de changer notre compréhension de l'univers. Elle nous incite à réexaminer nos modèles cosmologiques et à en apprendre davantage sur l'histoire de l'univers. Chaque année, entre mi-juillet et fin août, la Terre croise le chemin d'un nuage de débris laissé par la comète Swift-Tuttle. Ces débris pénètrent dans l'atmosphère à une vitesse de 25 km seconde et s'échauffent jusqu'à s'embraser, formant des traînées lumineuses que nous appelons des étoiles filantes. La pluie de météores des Perséides est l'une des plus spectaculaires de l'année. Elle est visible dans tout l'hémisphère nord, mais les meilleures conditions d'observation se trouvent dans les régions rurales, loin de la pollution lumineuse des villes. Le pic d'activité des Perséides se situe généralement entre le 12 et le 13 août. C'est à cette période que vous pourrez observer les plus d'étoiles filantes. Pour profiter pleinement du spectacle, choisissez un endroit sombre, dégagé, allongez-vous sur le dos et laissez vos yeux s'adapter à l'obscurité. Vous pourrez alors observer des étoiles filantes traverser le ciel à une cadence pouvant atteindre 60 par heure. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir une étoile filante particulièrement brillante qu'on appelle un météore. La pluie de météores des Perséides est un spectacle éblouissant à ne pas manquer. Alors voici quelques conseils supplémentaires pour les observer. Choisissez un endroit sombre, loin de la pollution lumineuse des villes. Allongez-vous sur le dos, laissez vos yeux s'adapter à l'obscurité. Ne regardez pas à travers un télescope ou une lunette astronomique, cela réduira votre champ de vision et vous empêchera d'apercevoir les étoiles filantes les plus faibles. Soyez patient, il faut parfois quelques minutes pour voir la première étoile filante. Et puis, dernier conseil, profitez du spectacle. Starliner est un vaisseau spatial habité développé par Boeing pour la NASA. Il est conçu pour transporter des astronautes vers et depuis la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Alors le premier vol d'essai de Starliner, appelé Orbital Flight Test 1, a eu lieu en décembre 2019. Cependant, le vol a été interrompu après que Starliner n'a pas pu s'amarrer à l'ISS. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que Boeing compte bien envoyer des vaisseaux en direction de l'ISS. Ça fait très longtemps que Boeing essaie de développer des vaisseaux permettant d'envoyer des humains en direction de l'ISS. Et là, ce sera bientôt chose faite. Alors il y a eu un deuxième vol d'essai en 2021 et qui a été retardé à plusieurs reprises, l'OFT-2. Le vol est finalement prévu pour mars 2023. Si OFT-2 est couronné de succès, Starliner deviendra le deuxième vaisseau spatial habité capable de transporter des astronautes vers l'ISS après SpaceX Crew Dragon. Donc le développement de Starliner a été long et coûteux, mais il est important pour la NASA d'avoir plusieurs fournisseurs de vaisseaux spatiaux habités. Donc ça permettrait à la NASA de diversifier ses risques et d'assurer la continuité des vols vers l'ISS. Donc ça peut être bien pour Boeing donc d'avoir un succès, donc ce succès, le succès de Starliner, hein, qui serait une grande victoire pour Boeing, mais également pour la NASA. Ça ouvrirait la voie à de futurs vols commerciaux comme vers l'ISS et ça contribuera à rendre l'exploration spatiale plus abordable et accessible. Ce sera également un énorme pas pour l'Europe vers l'exploration spatiale. Très récemment, en 2023, et on en a beaucoup parlé cet été dans pas mal de revues scientifiques, deux astronomes ont publié une étude suggérant qu'ils auraient découvert une étoile bosonique dans le système binaire Gaïa EDR3. Une étoile bosonique est un type hypothétique d'étoile composée uniquement de matière noire, une forme de matière invisible qui composerait environ 27% de la matière de l'univers. Le système binaire Gaïa EDR3 est composé d'une étoile semblable au Soleil et d'un objet très massif que les astronomes ont initialement pensé être un trou noir. Cependant, les astronomes Alexander M. Pombo et Hippocratis D. Saltas ont suggéré que l'objet massif pourrait être en fait une étoile bosonique. Ils ont soutenu que leur hypothèse était étayée par le fait que l'objet massif est très peu lumineux, ce qui est ce à quoi on pourrait s'attendre d'une étoile bosonique. Ils ont également soutenu que l'objet massif a une orbite très excentrique, ce qui est également ce à quoi on pourrait s'attendre d'une étoile bosonique. La découverte d'une étoile bosonique serait une découverte majeure, car elle fournirait la première preuve directe de l'existence de la matière noire. Cependant, il est important de noter que l'hypothèse de Pombo et Saltas n'a pas encore été confirmée. Des observations donc supplémentaires seront nécessaires pour confirmer ou infirmer leur hypothèse, en tout cas, on va suivre ça de très près dans les prochains mois, prochaines années. Il y a 50 ans, le premier robot bipède japonais, le Wabot 1, était dévoilé. Il mettait 45 secondes pour faire un pas. Aujourd'hui, les robots sont beaucoup plus avancés, ils peuvent marcher, parler et même penser de manière autonome. L'un des robots les plus avancés au monde est Ameka. Ameka est un robot humanoïde qui peut exprimer des émotions et répondre à des questions. Il est encore en développement, mais il a déjà appris à effectuer de nombreuses tâches telles que serrer la main, saluer et même danser. Un autre robot avancé est Optimus. Un robot humanoïde développé par Tesla, Optimus est encore en développement, mais il est conçu pour être capable d'effectuer une variété de tâches, telles que conduire des voitures, assembler des produits et même soigner des patients. L'évolution des robots soulève de nombreuses questions éthiques. Certains experts s'inquiètent que les robots deviennent trop puissants et qu'ils puissent représenter une menace pour l'humanité. D'autres experts pensent que les robots peuvent être utilisés pour améliorer notre vie de nombreuses façons. Il est encore trop tôt pour dire ce que l'avenir réserve aux robots, cependant il est clair que les robots vont jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies. Il est important de réfléchir aux conséquences potentielles de l'évolution des robots et de s'assurer que leur développement est éthique et responsable. Pourquoi je vous explique tout ça ? Eh bien parce que on fête les 50 ans de Wabot 1, qui était donc le tout premier robot bipède japonais, et c'était en 1973, et il mettait donc 45 secondes pour faire un pas. L'émission d'aujourd'hui touche à sa fin, et oui, c'était la dernière émission de la première saison d'On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif, et on a fait un petit peu le tour des informations et des news importantes et croustillantes que l'espace nous réservait pendant ces mois de juillet et août. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite émission aujourd'hui, un format un peu particulier. On pourra refaire des formats un petit peu similaires lors de la saison 2, voire supérieure. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de l'émission, bientôt peut-être l'Instagram de l'émission également. En tout cas, vous pouvez me suivre également Explora Science sur TikTok et sur tous les réseaux, sur YouTube, mais également sur Facebook et Instagram Explora Science. N'oubliez pas d'aller vous abonner si vous voulez suivre un petit peu plus les nouvelles de la science. En tout cas, moi je vous dis à la saison 2, ce sera à partir du mois prochain, à la prochaine émission. N'oubliez pas d'être curieux. Je vous souhaite une bonne fin d'été et surtout profitez bien encore des derniers jours de beau temps. Allez, ciao !